Bonjour à tous et à toutes. Je pense que tout le monde se porte bien, physiquement comme spirituellement. Et je pense surtout que chacun d'entre nous, chaque jour, nous avons ce privilège de nous placer devant le Seigneur pour pouvoir lui parler, méditer sa parole et apprendre à mieux le connaître. J'aimerais partager avec vous quelques réflexions sur l'évangile selon Matthieu. Matthieu chapitre 12. Matthieu chapitre 12, les versets 46 à 50. Ce passage que nous connaissons tous, et c'est un passage qui se retrouve dans Marc chapitre 3, versets 31 à 35, en Luc chapitre 8, 19 à 21. Donc les trois évangélistes ont repris ce même passage, et avec un regard différent. Le texte qui nous intéresse, c'est celui de Matthieu. Matthieu chapitre 12, versets 46 à 50. Comme Jésus s'adressait encore à la foule, voici sa mère et ses frères qui étaient dehors cherchèrent à lui parler. Quelqu'un lui dit, « Voici, ta mère et tes frères sont dehors et ils cherchent à te parler. » Mais Jésus répondit à celui qui le lui disait, « Qui est ma mère et qui sont mes frères ?» Puis étendant la main sur ses disciples, il dit, « Voici ma mère et mes frères, car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma sœur et ma mère. » Amen. Je reconnais que c'est un texte qui peut nous surprendre. Un texte qui peut nous surprendre si nous ne comprenons pas globalement la mission du Fils, la mission de Jésus-Christ. Il me semble que pour bien comprendre ce passage, il faut comprendre le contexte dans lequel Jésus-Christ a prononcé ces paroles. Les trois évangélistes parlent d'une foule autour de Jésus. Matthieu souligne que Jésus s'adressait à la foule, comme Jésus s'adressait encore à la foule. Et dans la Bible, s'adresser à la foule, c'est enseigner la foule. Et enseigner veut dire apporter à l'homme le message de Dieu. Jésus-Christ est venu nous apporter le message de Dieu. Jésus enseigne la foule, mais principalement ses disciples. Puisque Matthieu nous dit, verset 49, puis étendant la main sur ses disciples, Jésus enseigne ses disciples. Par contre, une chose qu'il faut rejeter de son esprit, c'est croire que Jésus n'a pas porté importance à la famille. Loin de là. Puisque en Jean chapitre 19, alors que Jésus est sur le bois de la croix, il confie sa mère à son disciple, Jean. Il dit, « Femme, voici ton fils. Fils, voici ta mère. » Donc là, nous voyons bien que Jésus-Christ a toujours eu le souci de la famille, de sa mère. D'ailleurs, il nous enseigne tous à avoir le souci de la famille. puisque l'apôtre Paul nous dit dans 1 Timothée 5, verset 8, « Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement ceux de sa famille, il a renié la foi, il est pire qu'un infidèle. » Donc, la Bible nous enseigne à prendre soin de notre famille, à l'exemple suprême de Jésus-Christ. Mais ce qui est important dans ce passage, bon, c'est là quand même, il faut que j'y vienne. Ce qui est important dans ce passage, c'est de comprendre la pensée fondamentale du Seigneur. Qu'est-ce que Jésus veut faire comprendre dans ces mots ? Quelle est la bonne interprétation des paroles de Jésus dans ce texte ? Il me semble que Jésus, à ce moment précis de son ministère, veut nous faire comprendre une vérité fondamentale, capitale. Il veut nous faire comprendre que maintenant, l'ère d'une nouvelle relation spirituelle avec Dieu est arrivée. On n'est plus enfant de Dieu. On n'appartient plus à la famille de Dieu par le sang, mais par la foi, par cette relation spirituelle. Et c'est pourquoi deux choses seront importantes maintenant aux yeux de Jésus-Christ. Le but de sa mission parmi les hommes et sa priorité. Si nous comprenons le but de la mission de Jésus, alors nous pourrions comprendre le sens de ses paroles. Et surtout, comprendre son plan. Pourquoi Jésus est-il venu parmi nous ? Pourquoi Emmanuel, qui veut dire Dieu parmi nous ? Bien sûr, pour nous sauver de nos péchés, c'est vrai. Mais est-ce uniquement pour cela ? Est-ce uniquement pour nous sauver de nos péchés, Jésus est-il venu ? C'est quoi l'essentiel ? Si nous croyons que Jésus est venu uniquement pour nous sauver de nos péchés, je pense que nous passons à côté de l'essentiel. Mais c'est quoi l'essentiel ? L'essentiel, me semble-t-il, dans l'œuvre du Christ, c'est de nous donner la possibilité et le privilège d'entrer en relation personnelle et intime avec Dieu. Entrer dans sa famille. Pouvoir appeler Dieu son Père. Pouvoir dire que j'ai retrouvé mon Père et que je fais partie de la famille de Dieu. Christ est venu pour que nous ayons une relation nouvelle d'amour avec Dieu, pour que nous puissions entrer directement dans sa présence, la présence même de Dieu, dans le lieu très saint. Voyez quel amour le Père nous a aimé pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, pour que nous puissions faire partie de la famille de Dieu. Pour que non seulement nous puissions connaître Dieu, mais aussi faire sa volonté. Qu'y a-t-il de plus merveilleux que de faire la volonté de Dieu ? Quel est celui qui n'aimerait pas faire la volonté de Dieu ? Quel est le chrétien qui dirait « Je ne fais jamais la volonté de Dieu » ? On le dira tout simplement, c'est parce que tu n'es pas un chrétien et que tu n'as jamais connu Dieu. Tout le monde aimerait faire la volonté de Dieu. Personne n'aimerait passer à côté de la volonté de Dieu, s'il pouvait la faire. Personne n'aimerait qu'on lui dise « Tu n'as pas fait la volonté de Dieu », alors qu'il aurait pu la faire s'il la connaissait. Personne n'aimerait que Dieu lui dise un jour « Ailleurs de moi, je ne vous ai jamais connu ». Tout le monde aimerait entendre Dieu lui dire « Viens, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. » Beaucoup d'hommes et de femmes dans ce monde commettent des atrocités au nom de Dieu. Beaucoup de personnes sèment la douleur, la souffrance, la terreur, la mort et le chaos en pensant faire la volonté de Dieu. D'ailleurs, Jean chapitre 16, verset 2, c'est Jésus-Christ même qui parle en disant que Jean 16, verset 2, ils vous excluront des synagogues et même l'heure vient où quiconque vous fera mourir croira rendre un culte à Dieu. Tuer en pensant rendre un culte à Dieu. Chose terrible. Et d'ailleurs, l'apôtre Paul lui-même nous dit en 1 Timothée 1, verset 13, qu'il se qualifiait de persécuteur, de violent. Mais il reconnaît et il admet qu'il agissait dans l'ignorance et dans l'incrédulité. Et moi, j'ai souligné l'incrédulité. C'est beau de dire que je suis ignorant, mais avant tout, je suis incrédule. Et être incrédule, c'est le refus de croire. C'est parce que je refuse de croire que je suis ignorant, et non pas l'inverse. Parce que si je veux croire en Dieu, Dieu va m'éclairer. Et l'apôtre Paul, à ce moment de sa vie, il refusait de croire dans le Messie. Et c'est pourquoi il est devenu cet homme violent, terrible. Mais Dieu, dans sa grâce, l'a changé. Il n'y a rien de plus beau, de plus merveilleux que de faire la volonté de Dieu. Mais pour la faire, mes amis, il faut déjà le connaître. Il faut entrer dans sa famille. Qui peut faire partie de cette nouvelle relation avec Dieu? Les disciples de Jésus-Christ. Et qui sont ces disciples? C'est Jésus-même qui répond à cette question. Verset 49, étendant la main sur ses disciples. Il dit, voici ma mère et mes frères, car quiconque fait la volonté de Dieu qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma soeur et ma mère. Et ce qui est intéressant, c'est que dans le passage parallèle dans Marc chapitre 3, verset 34, on va le lire. Passage parallèle. Marc apporte un éclairage. Verset 34. Puis jetant les regards sur ceux qui étaient assis autour de lui, voici, dit-il, ma mère et mes frères. Car quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma soeur et ma mère. Ce qui est intéressant, c'est que Marc ajoute ceux qui étaient assis autour de lui. Naturellement, j'ai souligné la chose. Assis autour de lui. Être assis à côté de Jésus-Christ implique être à côté du Seigneur. Donc il y a cette proximité qui souligne notre désir de le connaître, d'écouter sa parole, de le servir en faisant sa volonté. Jésus connaît ceux qui lui appartiennent. Ma question, mes amis, c'est où suis-je en ce moment? Est-ce que je suis à côté de Jésus? Ou est-ce que je suis loin de lui? Est-ce que j'ai ce désir de m'approcher du Seigneur? Est-ce que Jésus peut dire, voici mon disciple? En étendant la main, voici mon disciple. Que Dieu nous donne la grâce de rechercher sa présence. Rappelons-nous, Marie qui a choisi la bonne part, qui ne lui sera jamais enlevée, d'être à côté du Seigneur, d'écouter sa parole. Verset 50, quiconque fait la volonté de mon Père. Et que veut dire faire la volonté du Père? Que veut dire faire la volonté du Père? Et d'après Luc chapitre 8 verset 21, donc le passage est parallèle, Luc apporte aussi un autre éclairage. Luc nous dit, en Luc chapitre 8 verset 21, mais il répondit, Ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Être un disciple de Jésus, c'est non seulement être à côté de Jésus, mais c'est écouter sa parole et la mettre en pratique. Et nous comprenons tous que mettre en pratique veut dire obéir. Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Vous les mettrez en pratique. C'est ainsi qu'on reconnaît un disciple d'un autre. Celui qui non seulement est près du Seigneur, donc cette proximité, mais c'est surtout celui qui écoute la parole de Dieu et la met en pratique. Hébreux chapitre 2, verset 12, nous dit qu'il est venu annoncer le nom de Dieu à ses frères, à sa famille. Faire la volonté de Dieu, mes amis, c'est la chose la plus importante, mais aussi la plus merveilleuse. Quel est le chrétien qui n'aimerait pas faire la volonté de Dieu? Ça n'existe pas. Si vraiment on est chrétien, si vraiment on est disciple, notre désir fondamental, c'est de faire la volonté de Dieu. Mais pour faire la volonté de Dieu, il faut d'abord accepter de ne pas savoir afin d'apprendre du Seigneur. Ça arrive, l'esprit arrogant, je sais tout, je ne pourrai pas apprendre, mes amis. Il faut aussi accepter de se remettre en question pour modifier, voire changer son état d'esprit. Le disciple, c'est celui qui se remet en question dans le but d'apprendre, dans le but de grandir, dans le but de faire la volonté de son Père. Mais aussi, faire la volonté de Dieu, c'est accepter de croire en Dieu. C'est accepter de recevoir la foi. C'est vouloir recevoir la foi pour apprendre à connaître qui est Dieu, pour faire sa volonté. J'aurais du mal, mes amis, à faire la volonté de Dieu si je n'ai pas la foi en Jésus-Christ. Si je ne suis pas éclairé, je ne peux pas faire la volonté de Dieu. Parce qu'il y a une logique. Il y a quelques années, lorsque j'ai fait OM, il y a quelques années en arrière, il y avait un livre de Dal Rotan qui s'intitulait « La logique de la foi ». Il y a une logique, mes amis. Dans la vie spirituelle, il y a une logique. Et la logique, c'est que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Romains 10, verset 17. Comment puis-je mettre en pratique la volonté de Dieu si je ne la sais pas? Comment puis-je connaître la volonté de Dieu si je ne reçois pas sa parole? Comment puis-je la vivre si je ne cherche pas à la découvrir en la lisant et en la méditant? Comment mon cœur peut-il être touché si je ne suis pas ouvert à la foi en Jésus-Christ? Il y a une logique. La logique de la foi. La foi vient de ce qu'on entend. Et donc si je ne suis pas prêt, si je n'accepte pas que Dieu me parle dans sa parole, je ne pourrai pas faire la volonté de Dieu parce que je ne la connaîtrai pas. Christ a tout accompli pour que je puisse ouvrir mon cœur à Dieu et recevoir sa parole, recevoir ses bénédictions et ses grâces. Christ a tout accompli. Croire que Christ est mort uniquement pour mes péchés, oui, il est mort pour mes péchés. Mais croire uniquement cela, je passe à côté. Christ est mort à tout accompli pour que je puisse ouvrir mon cœur à Dieu et venir à Dieu et vivre dans cette plénitude, dans la présence de Dieu. Et ainsi Dieu peut me communiquer tranquillement sa volonté à mettre en pratique. Si le privilège de faire partie de la famille de Dieu est réservé uniquement aux disciples, c'est un privilège qui a un coût. C'est un privilège dont le prix à payer est cher. Le prix de renoncer à soi-même et de suivre le Christ jusqu'au bout. C'est un privilège, c'est vrai. Mais c'est un privilège qui a un coût. Christ a été jusqu'au bout. Il a payé le prix fort pour que nous puissions faire partie de la famille de Dieu. Christ a payé le prix fort. En principe, nous sommes aussi appelés à payer le prix fort, non pas pour être sauvés, puisque nous sommes déjà sauvés, mais pour le suivre. Et c'est vrai que suivre Jésus-Christ n'est pas facile. Être un disciple jusqu'au bout, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Il y a un prix à payer. Marcher derrière Jésus-Christ demande des sacrifices. C'est renoncer, bien souvent, à ce qu'on aime, qui ne plaît pas à Dieu, pour lui obéir. C'est pas toujours facile. Lorsqu'on aime une belle chose, lorsqu'on aime faire telle ou telle chose, et que Dieu nous dit que c'est pas bien, ça nous coûte. Suivre Jésus-Christ, ça coûte. Mais c'est le prix à payer, mes amis. Pour aller jusqu'au bout, il faut être prêt à payer le prix. Comme le Christ a payé le prix. Il a été jusqu'au bout, pour que nous puissions être enfants de Dieu. Héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ. Jésus-Christ avait pour mission de rassembler autour de son Père ses frères et ses sœurs dans cette nouvelle famille spirituelle. Dieu connaît notre passé. Chose extraordinaire, c'est que quel que soit notre passé, Dieu nous appelle maintenant à une vie nouvelle en Jésus-Christ, à faire partie d'une nouvelle famille, la famille de Dieu. Et c'est pourquoi maintenant, Christ, qui avait pour mission de rassembler cette famille, a eu maintenant pour priorité, c'est mon deuxième point, la priorité du Seigneur est de s'occuper de son peuple. Il est venu sauver son peuple. Et maintenant, sa priorité, c'est de s'occuper de son peuple. Rien n'aura plus d'importance aux yeux de Jésus-Christ que de prendre soin de son peuple, le nourrir, le protéger, l'amener à la sainteté. Rien n'a plus d'importance aux yeux de Jésus-Christ que de s'occuper de ses enfants, que de s'occuper de son peuple, que de s'occuper de ses disciples. Et l'exemple de Christ doit nous aider dans notre propre marche avec Dieu. Rien n'avait de plus d'importance à ses yeux que de faire la volonté de son Père, qui était d'enseigner, nourrir son peuple afin de l'amener au discernement spirituel pour le reconnaître et l'accepter comme le Messie d'Israël. Christ est venu pour ça. Éclairer son peuple par son enseignement, par sa vie, par ses actes, et bien sûr, par sa mort magnifique à la croix, sa résurrection, pour que le peuple puisse discerner qu'il était le Messie d'Israël. Et l'exemple du Christ, ses priorités doivent nous aider. Et bien souvent, dans notre marche chrétienne, les obstacles surgissent pour nous faire dévier de notre but. Quel est le but fondamental du chrétien ? N'est-ce pas de faire la volonté de Dieu ? Je me répète, mes amis, quel est le chrétien qui n'aimerait pas faire la volonté de Dieu ? Nous voudrions tous faire la volonté de Dieu. Parce que faire la volonté de Dieu, il n'y a rien de plus beau. Il n'y a rien de plus agréable. Il n'y a rien de plus parfait. Quel est le but fondamental de l'ennemi ? Tout faire pour que nous ne puissions pas faire la volonté de Dieu. Si notre but, c'est de faire la volonté de Dieu, le but de l'ennemi, c'est de tout faire pour nous dévier de cette volonté. Il va tout faire pour nous bloquer notre marche. Comme le diable est rusé et méchant, il va tout utiliser pour arriver à ses fins. Et nous savons tous que le diable peut utiliser les amis, les collègues, la famille, les situations difficiles, économiques, politiques, culturelles, tout cela pour nous dévier de notre volonté qui est de faire la volonté du Père. Et nous pourrions tous donner des exemples. Aujourd'hui, hier, cette semaine, etc. Tous des exemples où l'ennemi nous attaque pour nous empêcher de nous dévier de notre objectif suprême qui est de faire la volonté de Dieu. Mais en tant qu'enfant de Dieu, chrétien, notre priorité doit toujours rester de faire la volonté de Dieu, de travailler pour le royaume de Dieu. C'est là notre priorité. Dieu, qui a pour priorité le bien-être de ses enfants, s'occupera toujours de nous si nous avons choisi une priorité de faire sa volonté et de travailler pour son royaume. Pouvons-nous imaginer un père qui aime ses enfants et qui ne prendrait pas soin de ses enfants? Est-ce qu'on peut imaginer ça? Je dis bien, un père qui aime ses enfants et qui ne prendrait pas soin de ses enfants. Inimaginable. À plus forte raison, notre Dieu. Quel est le père qui donnerait, je reprends les paroles de Jésus, qui donnerait à son enfant un serpent s'il lui demande un morceau de pain? C'est inimaginable. Donc si nous avons choisi dans notre cœur de travailler pour le royaume de Dieu, quelles que soient les difficultés, les obstacles, sachant que Dieu, qui a pour priorité de s'occuper de ses enfants, s'occupera de moi. Dieu prendra soin de moi, parce que c'est sa priorité. Christ est venu nous montrer que maintenant, la priorité, c'est sa famille spirituelle. Sans négliger, bien sûr, les hommes et les femmes de cette terre. Mais sa priorité, mes amis, c'est son Église, ses frères et ses sœurs. Christ a eu des priorités. Je dois faire aussi des choix. Je dois hiérarchiser mes priorités. Qu'est-ce qui est plus important? Au temps présent, s'occuper du royaume de Dieu ou s'occuper des liens charnels? Qu'est-ce qui est plus important? Et pour Jésus-Christ, je me répète, mes amis, pour Jésus-Christ, à ce moment précis, il a expliqué à son peuple que pour lui, la priorité, c'était sa famille spirituelle. Donc, pour conclure, que pouvons-nous dire? Nous pouvons dire trois choses, mes amis, pour conclure. D'abord, aux yeux de Dieu, la relation spirituelle prime sur les liens charnels. Deuxièmement, on peut dire que les intérêts de Dieu passent avant les liens de sang. Et troisièmement, l'important pour le chrétien, c'est de faire la volonté de Dieu. Alors que Dieu nous aide à faire la volonté du Père et lui rester fidèle jusqu'au bout. Amen.